Bonsoir et bienvenue à tous dans la tribune de la presse de ce vendredi 4 mars 2011. Trois thèmes au menu du débat de ce soir, à savoir attaque de la résidence du chef de l'État dimanche dernier à Kinshasa. Dans notre deuxième thème, nous parlerons de l'investiture et la reprise des membres du bureau de la CENI. Et enfin, nous terminerons notre débat de ce soir par la levée de la mesure suspendant l'exploitation minière dans les deux Kivu et le Maniema. Trois confrères sont avec moi dans cette émission pour le débat, à savoir Benoît Kambéré, il est rédacteur en chef du magazine Les Échos de la région des Grands Lacs. Bonsoir Benoît.
Bien, bonsoir.
Israël Moussala, journaliste à Géopolis, magazine économique des activités extractives. Bonsoir Israël.
Bonsoir.
Et Dieudonné Moulamba, journaliste à la radio-télévision Malangi et mettant depuis Kananga dans la province du Kasai-Oriental. Il est aussi correspondant de Digital Congo dans la même province. Bonsoir Dieudonné Moulamba.
Bonsoir Kédou et bonsoir à tous les auditeurs de Radio-Canada.
Merci de nous suivre partout en RDC sur la fréquence FM et à travers le monde sur www.radio-okapi.net. Comme d'habitude, avant d'aborder les sujets retenus pour vous ce soir, voyons comment la presse écrite a analysé les thèmes que nous avons retenus. La revue de presse avec vous, Samuel Katat.
Bonsoir. Les journaux parus cette semaine à Kinshasa se sont intéressés essentiellement à l'attaque armée survenue à la résidence du chef de l'État, à la reprise des activités minières à l'est de la RDC et à la mise en place de la CENI. Coup d'État manqué à Kinshasa, titre le palmarès. Ce journal rapporte qu'un commando lourdement armé en tenue civile a tenté un coup de force à la résidence du chef de l'État. Pendant 15 minutes, relate le palmarès, la garde républicaine a courageusement fait face à ses assaillants avant de réussir à les repousser. Le potentiel parle d'un bilan de 6 ou 7 morts, d'un blessé grave et de plusieurs arrestations. L'avenir croit savoir que ces assaillants venaient de Brazzaville avec un élément parmi eux du MSC. La tempête des tropiques, quant à elle, révèle plusieurs incohérences dans les faits qui ont été présentés sur cet événement. Ce qui fait dire à ce journal qu'il existe des questions sans réponse. Autre sujet abordé dans cette revue de presse, c'est la mise en place du bureau de la CENI. Le FA estime que les membres de la CENI, avec comme président le pasteur Daniel Ngoy Mulunda, ont prêté serment samedi dernier devant la Cour suprême de justice. Le potentiel pour sa part informe que la cérémonie de remise et reprise entre la CEI et la CENI s'est déroulée jeudi au siège de cette institution entre l'abbé Apollinaire Malomalo et le pasteur Daniel Ngoy Mulunda Nyanga, président de la CENI. L'avenir qui rend compte de cette cérémonie dans ses colonnes estime que celle-ci traduit la volonté des Congolais à asseoir une démocratie réelle en RDC. Terminons cette revue de la presse avec la reprise des activités minières à l'est de la RDC. Forum des As annonce la levée à partir du 10 mars prochain de cette mesure de suspension des activités minières à l'est de la République démocratique du Congo. Une décision issue des travaux de concertation entre le ministère des Mines et les délégués des acteurs du secteur minier affirme le quotidien La Prospérité. Ce journal précise que les gouvernants des trois provinces de Kivu se sont engagés à mettre désormais toutes les batteries en marche pour lutter contre l'exploitation minière illégale afin de faire triompher la décision du chef de l'État.
Merci Samuel pour cette revue de presse. Benoît Kambéré, vous êtes rédacteur en chef du magazine Les Échos de la région des Grands Lacs, un magazine qui paraît à Kinshasa. Un mot sur la revue de presse que nous venons de suivre.
La revue de presse a pris trois grands points de la semaine, particulièrement la semaine qui a démarré dimanche par ce coup qu'on peut appeler coup sans le qualifier, n'est-ce pas, l'investiture de la CENI et l'exploitation illégale qui finalement l'exploitation qui a repris artisanale. Bon, à ces trois titres, j'aurais à ajouter la fin de la session des évêques, la plénière des évêques, parce qu'ils ont fait une grande déclaration, justement, en rapport avec l'année électorale que nous allons commencer, et pas mal de recommandations sont contenues dans ce rapport, cette déclaration des évêques, comme d'habitude, qui paye toujours mon cul.
Israël Moutalabou, vous êtes journaliste géopolitique, un magazine économique des activités extractives. Un mot aussi par rapport à la tribune, plutôt à la revue de presse que nous venons de suivre.
Bon, comme Benoît l'a souligné, les trois questions importantes, ça veut dire le coup d'État ou acte terroriste ou théâtre selon les différentes rédactions. Ont vraiment comment occuper la presse cette semaine. Il y a eu aussi la question justement de la CENI, qui a connu maintenant une épilogue heureuse. Il y a eu aussi la question justement de la levée de la mesure de suspension des activités minières à l'est du pays. C'est une nouvelle qui a été aussi abondamment commentée dans la presse. Mais comme l'a dit Benoît, et je me répète encore, la déclaration des évêques catholiques est vraiment importante. C'est une actualité brûlante aussi parce qu'elle a fixé un certain cadre pour permettre à ce que le processus électoral que nous attendons cette année ne puisse pas déraper.
Alors on pourrait dire que c'était les grands sujets quand même de la semaine.
Et puis le générique et tout, qui est pas mal, hein. J'ai beaucoup aimé.
Merci Benoît. Dieudonné Moulamba, vous êtes journaliste à la radio-télévision Malandji, et étant depuis Kananga dans la province du Kasaï occidental, vous êtes aussi correspondant du Digital Congo dans la même province. J'imagine que l'actualité dans le Kasaï occidental, c'est la démission de Trésor Kapoukou.
Effectivement, je me disais qu'il fallait qu'on puisse, dans cette résolution, ajouter ce titre qui a fait couler d'encre de salive dans le Kasaï occidental, en dehors de ces trois principaux titres qui ont été relevés dans la revue de la presse. Il est vrai qu'au Kasaï occidental, la démission du gouvernement Trésor Kapoukou est en train de alimenter les débats. Et puis, il est aussi question de parler de celui qui pourra remplacer ce gouverneur, parce qu'on est presque à la fin du mandat de 5 ans qu'il devait exercer. En tout cas, il était aussi normal qu'on puisse ajouter ça à la revue de la presse et Radio Papi de ce soir.
Alors, comment la population du Kasaï occidental a accueilli cette nouvelle?
Accueillir, ça a été de deux manières. Il y en a qui ont pensé que ça a été un ouf de soulagement. Ça m'engage que ceux qui en parlent. Il y en a d'autres qui ont pensé qu'il ne fallait pas que le gouvernement passe beaucoup plus tard en ce moment parce que nous sommes vraiment à la fin. S'il arrivait qu'on puisse le remplacer par quelqu'un d'autre qui puisse être parachuté de Kinshasa ou d'ailleurs, ça va perturber la chaîne des choses ou la chaîne du développement de la province qui avait déjà été établie par ce dernier gouvernement. C'est de cette manière-là que la chose a été au Kasaï occidental.
Merci de donner Moulamba. Benoît, vous vouliez dire un mot sur la démission de Trésor Kapoukou?
Ben justement, tout à l'heure, quand de donner Moulamba a dit ça va arrêter la chaîne du développement du Kasaï, j'ai lu un titre qui a dit enfin, maintenant, le Kasaï occidental va se réveiller parce que enfin, Trésor Kapoukou est parti.
Israël Moutala.
Sur la démission forcée de Trésor Kapoukou, à partir de Kinshasa, il faut quand même qu'on rétablisse la vérité. Trésor Kapoukou n'était pas à sa place. C'est un gouverneur gangster qui se bat, qui ne pousse pas sa place. Il faut qu'on se le dise. Il y avait un grand malaise de ce qu'il était à la tête de cette province. Il faudrait que le système politique arrive à éjecter les fils qui sont indignes d'occuper les responsabilités politiques. Et Trésor Kapoukou en était un. Donc, il ne faudrait pas qu'on... Voilà, on a perdu du temps, on a perdu avec tout ça. Il fallait qu'il parte et c'est bien qu'il soit parti. Et il y aura une autre personnalité. Espérons que celle-ci ne va pas retomber dans la même travers que Kapoukou, avec un pouvoir très personnel, très autoritaire et loufoque.
Merci. Avec les quelques voix qu'il reste, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps.
Le premier thème de ce soir, attaque de la résidence du chef de l'État dimanche dernier à Kinshasa. La résidence du président Joseph Kabila a été attaquée par un groupe d'hommes non encore identifiés dimanche dernier en début d'après-midi. Les assaillants en provenance du club, selon le porte-parole du gouvernement, se sont heurtés aux éléments de la garde républicaine commis à cette résidence située dans le quartier de la Gombe derrière le grand hôtel de Kinshasa. D'autres coups de feu avaient été également entendus vers le camp Kokolo, causant une grande panique dans les quartiers environnants comme Bandalungwa et Lingwala. Le gouvernement congolais exclut l'hypothèse d'un coup d'État sur l'attaque de la résidence présidentielle. Le porte-parole du gouvernement promet que plus amples détails sur cette affaire seront donnés au public par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité qui, selon Lambert Mende, est en train de les réunir d'une manière précise. Pour le porte-parole du gouvernement congolais, il s'agit d'un acte terroriste. Lambert Mende précise qu'au stade actuel, le gouvernement n'accuse personne. Il s'exprimait ainsi mardi dans une conférence de presse. On l'écoute au micro d'Innocent Olinga.
On a parlé de tentative de coup d'État. Nous lisons cela dans plusieurs articles, plusieurs chroniques. Nous demandons bien sur base de quoi on se base pour qualifier ces faits ainsi. Un coup d'État, normalement, ça se revendique. Un coup d'État, en principe, est signé. Et nous n'avons reçu aucune revendication, aucune signature, mais c'est la justice qui nous dira exactement qui est à la base de ça, parce que les auteurs eux-mêmes n'ont jeté aucun trait, ils n'ont diffusé aucun message radiodiffusé, et donc on ne peut pas dire que c'était un coup d'État. Tout ce qu'on peut savoir, c'est qu'il s'agit d'une offensive terroriste. C'est des gens qui, manifestement, voulaient faire peur aux populations de Kinshasa. Même des voleurs peuvent vous distraire sur plusieurs sites. Au moment où ils veulent frapper quelque part et prendre les lieux, ça ne veut pas dire qu'ils veulent faire un coup d'État. Le coup d'État, c'est la revendication. Le coup d'État, c'est le message politique, c'est un acte politique. Nous n'avons vu aucune manifestation politique autour de cette action de dimanche. Mais la justice peut nous donner un peu plus de détails, peut-être.
Israël Moutala, coup d'État, tentative de coup d'État, acte terroriste, mouvement pour faire peur. Comment vous analysez cette attaque de dimanche dernier qui nous à la résidence du chef de l'État?
Le problème, c'est que justement, le gouvernement, dans sa communication, est resté très évasif. Donc, nous sommes au cinquième jour depuis cet acte. Nous ne voyons toujours pas les images des assaillants. On nous a dit qu'il y a plusieurs morts, nous ne connaissons pas leur identité. Mais les événements d'une telle gravité, je pense que le minimum que le gouvernement devait faire, c'est quand même présenter les assaillants, présenter un peu leur origine, donner les bribes d'informations dont ils disposent pour nous éclairer. Et jusque-là.
Ça a été le ministre de l'Intérieur en train de réunir les éléments.
Ça fait cinq jours.
Il faut du temps pour réunir tous les éléments.
On a besoin de qu'on nous fasse un dossier complet, c'est le travail de la justice. Alors, on ne nous demande aucune chose. D'abord, qu'on nous montre même le visage des assaillants, les cadavres, et puis les armes qu'ils avaient, mais plus que ça, pour que nous nous passions quand même une idée des assaillants. Or, jusque-là, la communication du gouvernement est vraiment évasive. Mais bon, mais moi, je vois mal quand même que des gens puissent entreprendre une telle activité, une telle action, que je condamne, je dirais ça, parce que je suis quand même quelqu'un de pacifique et je considère qu'il faut tourner le dos à la violence et que toutes les revendications politiques doivent s'exprimer électoralement parlant. Et donc, mais je vois mal quand même que des gens puissent aller attaquer la résidence privée du chef de l'État au motif de faire peur aux Chinois. De quoi est-ce que les Chinois auraient-ils peur? Il a connu toutes les guerres, il est affamé, il est dans ses tracas de tous les jours. De quoi les Chinois auraient-ils peur? Et moi, je pense que ce n'est pas non plus, je pense, ça ne peut pas être un acte terroriste. Moi, je pense en principe que ça doit être un coup d'État manqué. Parce qu'une seule activité, déjà quand on attaque le chef de l'État, sa résidence, c'est pour perpétuer un coup d'État. La question des revendications, on verra. Les revendications peut-être ne se sont pas manifestées aujourd'hui parce que le coup n'a pas réussi. Voilà. Mais moi, je vois mal que ce soit un acte terroriste.
Donc, vous pensez que c'était une tentative de coup d'État?
Rationnellement, je ne peux pas penser que ce soit un acte terroriste. Rationnellement aussi, avec les éléments dont je dis, je ne comprends pas que l'on puisse faire ça pour faire peur aux Quinois. Les Quinois, avoir peur de quoi? Je ne vois pas. Je vois très mal.
Benoît Kambéré, vous, comment vous analysez cette attaque de la résidence du chef de l'État?
Sous Mobutu avait dit que Kinshasa est une ville de Balobien. Il y a eu tellement de versants sur cet imbroglio, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qu'on perd son latin. Un confrère a titré trop de versions que la vérité. Finalement, on se demande qu'est-ce qui s'est passé.
Vous avez eu combien de versions?
On en a combien? Il y a eu plusieurs versions.
Entre autres,
le dimanche, c'était curieux d'ailleurs que le porte-parole du gouvernement, qui n'est pas porte-parole du chef de l'État, n'est-ce pas, précisons, passe à la télé dès 16h. En lingala et en français, parlaient des hommes lourdement armés. Le lendemain, c'était des gens qui avaient des armes blanches, des machettes. Le surlendemain, c'était des émoulés qui seraient arrivés à Kinshasa. Le surlendemain, l'après-midi, on a parlé des maïmaï. L'avant-midi du surlendemain, bref, il y avait mille et une versions. Et Kinshasa, aimant les rumeurs, ça part dans tous les sens. Qu'ils seraient passés par le camp Kokolo, qu'ils ont retiré, qu'ils sont même arrivés jusqu'à la troisième barrière. Mais ça me paraît grave. Quelque chose ne doit pas marcher quelque part. J'ai entendu un sénateur, Henri Thomas Lokondo, pour ne pas le citer, qui est très connu dans ce pays, super fic de son état. Il a été rédor, il a été ministre, vice-ministre, n'est-ce pas, qui a dit qu'on devrait se poser des questions. On ne peut pas comme ça, de façon si légère, entrer jusqu'à la troisième barrière de la résidence du chef de l'État. C'est grave. Le chef de l'État est une institution. Que font tous les gens qui sont autour du chef de l'État, qui sont censés assurer sa sécurité? N'oubliez pas que ce pays, on a tué un chef de l'État chez lui. Il y a 10 ans. On ne peut pas comme ça. Et que font tous ces services, si ce n'est traquer des faussaires, traquer les gens à la cité, s'exhiber dans les débits de boissons? Ça, c'est pas la sécurité. La sécurité, c'est un service d'intelligence. C'est comme ça qu'on l'appelle. Comment on peut expliquer que des assaillants, lourdement armés, machettes, en guenilles, en partie de tenue militaire, peuvent arriver jusqu'à la troisième barrière de la résidence du chef de l'État? Et le sénateur Henri Thomas Lokondo a raison de dire qu'on devrait frapper.
On devrait frapper qui?
Les services de sécurité. Parce que ça ne devait pas arriver, ça. Et puis après, il n'y a pas de version officielle. On a entendu.
Il y a une version officielle. Le porte-parole du gouvernement.
Le porte-parole a commencé à parler des hommes lourdement armés. Le mot coup d'État est venu de lui le dimanche. C'est après, quand il a pris la parole, qu'il y a eu, parce que c'était comme si il y en a qui parlent même d'un montage.
C'est la bouche autorisée du gouvernement, donc il y a eu la version officielle du gouvernement.
Qui a dit d'abord, qui se contredit, qu'il y avait un coup d'État, et puis c'était un acte terroriste. Et puis un acte terroriste, pour faire peur à la population kinoise, on va jusqu'à la troisième barrière. Allez, écoutez, arrêtons. On entend chaque fois des gens prendre la parole à temps et à contre-temps quand il s'agit de contredire une vérité connue de tout le monde, quand quelqu'un à l'extérieur ouvre sa bouche pour dire ce qu'il pense, et on met tous les chevaux et on sait comment aboutissent les enquêtes dans ce pays. Ce serait maintenant le moment de nous dire qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait quoi? On aurait arrêté des gens. Ils sont où, les morts? Ils sont où qu'on nous les montre?
Merci.
C'est les
morts. Merci, Benoît. Dieudonné Moulamba, comment vous analysez cette situation ou cette information?
Au départ, je ne suis pas d'accord avec le ministre de la Communication et de l'Information qui pense que c'est pour l'idée d'un coup d'État raté. Et puis, il fait allusion de manière très légère à un coup monté par des voleurs. Vraiment, parler des voleurs à ce niveau, de la face de la résidence personnelle ou du poste de l'État, moi je me dis que c'est une hypothèse qui ne peut pas tenir debout parce que le chef de l'État est censé être effectivement ou de manière correcte sécurisé. Et je ne sais pas, le ministre Mende attend qu'elle existe pour parler d'un coup d'État. Donc, il y a vraiment lieu de mettre deux choses là-bas. Soit le chef de l'État est sécurisé, et de fond, des choses comme ça, on parle d'un coup d'État, où il n'est pas sécurisé, les simples voleurs peuvent alors attaquer à sa personne ou s'attaquer à sa résidence. Donc moi, je me dis que si on est arrivé à attaquer la résidence du chef de l'État au niveau où on en parle aujourd'hui, franchement, cela demande de la faiblesse ou de l'incompétence des services de sécurité qui entourent le chef de l'État. Il fallait normalement que les dispositions soient prises depuis un temps pour que des choses comme ça ne puissent pas arriver. Mais à partir du moment où ça arrive, on dit qu'il y a une certaine défaillance de la part des services de sécurité qui entourent le chef de l'État, Parce que, maintenant, c'est vrai que je ne suis pas un militaire, encore moins un officier de la police, mais les dispositions par rapport à la sécurité sont prises avant que le tir ne puisse arriver. Mais maintenant, on est arrivé à une situation telle que la personne de sécurité a été attaquée jusqu'à ce niveau le plus proche. Donc, ça nous note, comme je venais de dire, d'une certaine incompétence ou de la faiblesse de cette sécurité qui entoure le président. Alors, on parlait de ce deuxième petit groupe de voleurs qui puisse arriver à ce niveau-là, le ministre de l'Apparition, il faut qu'il puisse, revoir sa façon de parler et faire croire aussi que, un coup d'état peut être mis en évidence à partir de pareils, actes qui se commettent, jusqu'à toucher presque, les fonds de l'agence du chef de l'État.
Merci de donner Moulamba Israël Moutala. Une certaine opinion estime que ce genre de situation pourrait mettre en danger les élections.
Oui, et ils n'ont pas tort, justement, parce que nous sommes à 6 mois des élections présidentielles, si on doit respecter le prestige constitutionnel. Mais donc, quel intérêt, justement, on aurait à déstabiliser les institutions? Bon, voilà pourquoi il y a une thèse qui dit que c'était une mascarade. Parce qu'avec de telles manipulations, si manipulations il y a, nous sommes dans une hypothèse, on peut suspendre les libertés individuelles et collectives et politiques et tout ça. Mais bon, quel est l'intérêt aujourd'hui de perpétrer un acte terroriste ou un coup d'État? Non. Nous sommes à 6 mois des élections présidentielles. Un mandat s'achève, un autre va commencer. Donc, le gouvernement va présenter un bilan, l'opposition va présenter son projet, et donc, il y aura une confrontation électorale pacifique, transparente, que tout le monde souhaite. Alors, dans ces conditions, pourquoi un tel acte? Justement, voilà ce qui fait dire à certains que c'est peut-être du théâtre, c'est peut-être de la manipulation. Et ces gens, quand ils le disent, ils n'ont pas tort. Rappelez-vous qu'il y a un mois ici, il y avait des coups de feu aussi au Katanga, à l'aéroport. Donc, rappelez-vous qu'il y a beaucoup de faux coups d'État ou de vrais coups d'État non élucidés dans ce pays. Donc, nous sommes dans des situations difficiles. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si coup d'État il y a eu, si acte terroriste il y a eu, on a posé la question ici des services de sécurité, des services d'intelligence, mais il faut dire que ces services là-bas ont encore de l'héritage dictatorial dans leur fonctionnement, dans leur recrutement, donc qui n'est pas basé sur des critères objectifs de compétence et d'intégrité. Et donc ces services seront toujours incapables à protéger convenablement les institutions parce que leur mutation démocratique n'a pas encore eu lieu.
Mais là, qu'on dirait, certains observateurs estiment que après cet acte terroriste, comme l'a qualifié le ministre Lambert Mende, le chef de l'État devait quand même s'exprimer pour assurer le peuple congolais.
Ben, c'est tout ça qui fait que tout à l'heure, Kelly, tu as dit non, la version officielle a été donnée. C'est parce qu'on se pose trop de questions. Il y a trop de zones d'ombre. Il faudrait qu'ils parlent. Il faudrait qu'on rassure la population. Si on peut intenter, j'ai lu dans la presse ici à Kinshasa, on a dit un groupe de Koulouna a attaqué la maison du chef de l'État.
Ça, c'est le commentaire de la presse, ben, non?
C'est dire que, vivement, qu'on rassure la population kinoise si ce n'est pas un montage. Parce qu'il y a maintenant plusieurs hypothèses.
Mais pourquoi vous pensez que ça peut être un montage?
Ben, on est passé de 2 tours à 1 tour. On peut peut-être passer de 1 tour à 0 tour, non? Ça peut aussi être une hypothèse. C'est tout ça. Et les évêques n'ont fait rien d'autre que rappeler, demander qu'on aille dans la paix aux élections, même si le temps fait défaut maintenant. Il faudrait qu'on fasse une course contre la montre. Il faut faire très attention. Attention avec des apprentis sorciers et des coups qui peuvent s'avérer des coups fatales, malheureusement.
Dieudonné Moulamba, on va terminer avec vous ce premier thème. Qu'est-ce qui se raconte dans la rue à Kananga par rapport à cette situation qu'on a vécue à Kinshasa dimanche dernier?
Bon, pour ceux qui se laissent séduire par le discours du ministre Lambert Mende, ils pensent qu'il s'agit là d'un défaut de contrôle de circulation d'armes à feu dans la capitale de la RDC. Et puis, il y a des problèmes à plusieurs niveaux, notamment au niveau sécuritaire, où il faut que les services militaires puissent, les services sécuritaires, vous voulez dire, puissent renforcer leur dispositif sécuritaire autour du chef de l'État. Il y en a qui pensent que Lambert Mende
n'a pas un discours concret où il est en train de se voiler la vérité d'une manière ou d'une autre. Et pour cela, il s'agit effectivement d'un coup d'État qui a été raté. Et puis, il y en a d'autres qui pensent que tout cela, les services de sécurité ont fait leur travail. Ils ont réussi à repousser ces assaillants qui semblaient ou qui avaient de mauvaises intentions à l'endroit du chef de l'État ou de sa résidence. Et par rapport à ceux-là qui pensent comme cela, il y en a d'autres, voilà ce que je voulais dire. Il y en a d'autres qui pensent qu'il faut vraiment qu'on revoie les choses et puis qu'on se pose la question s'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'entourage du chef de l'État.
Deuxième terme de ce soir, investiture et reprise des membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Je prends l'engagement solennel de n'exercer aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance, à la neutralité, à la transparence et à l'impartialité de la Commission. C'est extrait du serment du pasteur Daniel Ngoï, acté par la Cour suprême de justice en le félicitant comme étant président de la CENI, marque effectivement l'investiture des membres de la Commission électorale nationale indépendante. La cérémonie d'investiture a eu lieu à Kinshasa, c'était au cours d'une audience solennelle publique devant la Cour suprême de justice. Les membres du bureau ont à tour de rôle juré sur l'honneur de respecter, de remplir loyalement et fidèlement leurs fonctions, de garder les secrets de délibération et de vote, même après la cessation de leurs fonctions, et de n'imbriguer aucun mandat aux échéances électorales en cours, même s'il ne faisait plus partie de la CENI. La remise de reprise a eu lieu ce jeudi au siège de la Commission électorale indépendante. Mais quels sont les défis qui attendent cette nouvelle institution? On écoute le vice-président de la CENI, Jacques Ndoli, au micro de Jack Ngoy.
Les défis, c'est d'organiser des élections dans les délais constitutionnels, des élections visibles, transparentes, qui devront donner au peuple congolais des institutions encore plus légitimes pour que nous puissions avancer vers le développement de cette nation.
Est-ce que vous êtes complètement déconnecté de votre famille politique?
C'est tous les défis, c'est ce qu'on appelle personnalité indépendante, c'est d'être capable de ne pas avoir des états d'âme, mais des un homme d'État. C'est pourquoi on nous demandait de choisir des personnalités indépendantes qui pourront, n'est-ce pas, démontrer qu'ils ne sont pas là pour obéir aux injonctions de partis politiques, mais les organisations politiques restent nos partenaires privilégiés parce que ce sont eux qui sont les acteurs. C'est eux que nous devons mener dans la sérénité, dans la paix aux élections. Donc, il va de soi que nous aurons des contacts professionnels, objectifs, dans un élan de communication. Vous savez, la plupart des conflits en Afrique sont des conflits soit c'est-à-dire les acteurs ne s'entendent pas, soit le conflit électoraux, c'est-à-dire qu'une élection qui a tourné, comme à Côte d'Ivoire, nous sommes conscients du rôle immense. Hier encore, à côté du facteur, lorsque nous prenons serment et que nous attendions l'Union nationale, nous nous sommes dit avec les autres amis que la charge est immense et nous aurons besoin du concours de toute la nation.
Benoît Cambéry, elle est enfin là, la CENI. Elle était très attendue. Finalement, elle est là.
Trop attendue même. Bon, il faut dire mieux vaut tard que jamais, hein, parce que d'abord, c'est depuis 2 ans que cette CENI devait être mise en place. La loi a traîné à l'Assemblée nationale, on a fixé des échéances pour mettre la CENI en place, le bureau de la CENI en place. On a même fixé des ultimatums. J'ai entendu le président de l'Assemblée nationale dire qu'au plus tard, le 23 septembre, il fallait que... Bon, et puis, il y a eu cette guerre de tranchées des hommes qui devaient animer la CENI. Et avant ça, il y a eu même la loi sur la CENI qui a traîné des mois au bureau du chef de l'État. Et finalement, les membres de ce bureau sont connus. Tout à l'heure, tu as parlé de 6 membres, mais en fait,
c'est 7 membres, mais il y a un qui était absent de la cérémonie.
C'est déjà un problème. Il n'était pas absent de la cérémonie. Il était à la cérémonie, il se serait désisté. C'est un qu'on doit remplacer, et curieusement, il est de l'AMP. Alors, il y a la CENI est en place, mais maintenant, le défi, et ça, j'ai entendu le vice-président de la CENI, d'ailleurs, j'étais surpris de voir avec quelle facilité, avec la guerre des tranchées qu'il y avait pour nommer, pour mettre les noms, mais avec la facilité avec laquelle les postes se sont distribués. J'ai trouvé même que c'était suspect que le pasteur Mulunda soit président, que Joly, que tout l'AMP récusé soit vice-président, que le rapporteur soit...
Mais qu'est-ce qu'il y a de suspect dans tout ça, Benoît Cambéry?
Que ça s'est passé trop vite, parce que ça a trop...
Ça Les transactions n'ont pas commencé hier ou avant-hier.
Ce n'était même pas des transactions, c'était des crocs en jambes. Ça ne s'appelle pas de transactions, ça.
Ils se sont mis finalement d'accord.
Ben, disons. Et
est-ce que ce n'est pas une chose à féliciter?
Curieusement, ils se sont mis d'accord. Justement, ça fait tellement. Ils se sont tellement trop vite mis d'accord que c'est suspect. Maintenant, le défi, c'est l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Il manque déjà un membre qu'il faut remplacer, mais ce n'est pas n'importe quel membre. C'est le directeur, Maître Flavien Missoni, c'est le directeur du Bureau national des élections. Donc, quelqu'un de très important, à mon sens, sa place serait dans le bureau. Qu'il ne soit pas dans le bureau, peut-être qu'il va. Il semble qu'il a décidé de continuer à piloter le Bureau national des élections. Mais il faut qu'on le remplace et qu'on le remplace vite. Le grand défi, ce sera l'organisation dans les délais constitutionnels, parce que comme nous tous, nous le savons, les élections devraient avoir lieu dans les 6 mois, alors qu'on n'a pas encore commencé on n'a pas fini à revoir le fichier électoral où les cartes d'électeurs sont caduques. Les anciennes cartes d'électeurs sont caduques, le défi est là et ils ont du pain sur la planche.
Merci Benoît Israël Moutala. Justement, parlons de ce défi majeur qui est l'organisation des élections au mois de novembre 2011. Est-ce possible? Est-ce que c'est possible que la CENI puisse organiser ces élections dans le délai constitutionnel lorsqu'on sait que les opérations des révisions du fichier électoral n'a pas encore commencé dans toutes ces provinces?
Bon, oui, c'est possible parce que avec l'appui logistique de la MONUC, il a été décidé, je crois, de faire les opérations de révision du fichier électoral simultanément dans plusieurs provinces à la fois, alors que la stratégie qui avait été arrêtée avant, c'était d'aller province après province, ou groupe de province après groupe de province. Maintenant, il y a moyen de faire simultanément le même travail dans plusieurs provinces, et donc je pense que cette stratégie, si elle est appliquée, il y a lieu de respecter le délai constitutionnel. Et donc, il y a aussi le fait que nous serons passés quand même de 2 tours à 1 tour, ce qui fait qu'il n'y aura plus de 2 tours. Donc, il y a moyen de ramener les élections en présidentielles et autres en septembre. Donc, c'est possible si on y met les bouchées doubles, si on boucle la question du budget, parce que là, ils ont un grand travail à faire. C'est quoi? D'abord, le calendrier. Revoir le calendrier, faire le tour de table des bailleurs de fonds, voir ce que le gouvernement a disponibilisé pour les élections. Le côté logistique, comme je l'ai dit ici, est-ce que c'est faisable qu'on puisse en même temps revoir les fichiers électoraux dans plusieurs provinces à la fois? Ils ont réduit déjà avant cela certains centres. En réduisant le centre, ils ont demandé à ce qu'ils ont prolongé le délai d'ouverture du centre tout en réduisant le nombre de centres. Ce qui fait qu'il y a des personnes qui habitent loin, qui sont obligées de faire plusieurs kilomètres pour se faire enrôler. Donc il y a tout ça. Je crois que si on ne perd pas le temps, il y a moyen d'y arriver. Mais il faut rappeler aussi que le mois de mars, le mois d'avril sont des mois pluvieux. Et donc, dans plusieurs provinces, est-ce que cet état de choses ne va pas encore compliquer les opérations? Mais je pense que si, il y a moyen de respecter les délais constitutionnels.
Voilà, parlons de la crédibilité de cette institution, Dieudonné Moulamba. Certaines personnes pensent qu'on ne peut pas accorder beaucoup de crédits aux élections qui sont organisées par la CENI parce que le président est un proche du chef de l'État.
Il n'y a pas lieu d'exclure totalement cette hypothèse-là, parce que le pasteur Ngoï, qui vient tout fraîchement de là où il parlait, arme à prix contre 50-100 $, aujourd'hui, directement parachuté dans les processus électoraux, les gens ont peur. Mais il y a aussi une hypothèse qu'il faut soulever, c'est le retard avec lequel la CENI est mise en place. Moi, j'avais pensé que il fallait que cette institution puisse venir ou puisse être mise en place un peu plus tôt pour que ses membres puissent avoir les 2 pieds sur terre pour pouvoir organiser les élections ou bien exercer leur mandat. Mais maintenant que, après un long temps passé, on met en place cette commission, il y a lieu que ça puisse être, là j'ai peur, il y a lieu que ça puisse être un prétexte de retard de l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Et puis, au départ, quand j'ai entendu parler de la CENI qui était mise en place maintenant, là, je me suis dit, effectivement, il y a, j'ai fait allusion à une organisation de difficulté des élections parce que le pasteur Louis et toute son équipe, les professeurs Andelou et les autres, moi, je me suis dit qu'ils viennent à un moment où les élections pointent déjà à l'horizon. Il est difficile qu'ils puissent vraiment bien se ressaisir. Mais parler aussi de les relations qui existent entre le chef de l'État et le pasteur Moulunda, bon, moi je me dis que c'est aussi une hypothèse qu'il faut mettre en ligne des comptes, mais le pasteur Ngoyi, avec tout ce qu'on lui doit comme respect, je pense qu'il ne pourra pas, il n'a pas droit à l'erreur pour pouvoir rendre moins crédibles les élections qui se pointent à l'horizon. Donc, il y a une autre chose, quand le pasteur Ngoyi commence à dire qu'il aura besoin, parce que là, je l'ai lu sur un site, il dit qu'il aura besoin de l'expérience de l'abbé Malomalo pour pouvoir bien exercer ses tâches ou son mandat, mais moi, je me suis dit, c'est déjà un défaut quelque part, parce que lui-même, aujourd'hui, devant les élections, s'il faut qu'il commence à compter sur les créances de l'abbé Malomalo, c'est vraiment difficile parce que là, je ne sais pas si à ce moment-là il va faire de Malomalo l'un de ses conseillers, il va faire de Malomalo s'il a un cabinet, un directeur de son cabinet ou quoi, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Donc, moi je sens que les élections de 2011, avec la mise sur pied de la CENI, seront vraiment seront difficilement organisées. Il y a risque que le manque de crédibilité pour ces élections ne soit pas seulement possible avec les à cause des relations qui sont entre les chefs de l'État et Ngoyi, mais à cause de la précipitation avec laquelle ces gens pourront organiser les élections.
Merci Dieudonné Moulamba. Brièvement, Benoît Kambere, quel sens peut-on accorder à cette institution?
Je suis pessimiste. Je me dis que avec le temps qui reste, avec les défis à relever, touchons du bois.
Israël Moukala, pessimiste aussi?
Je suis pas pessimiste, mais je suis pas non plus optimiste. C'est-à-dire que c'est la vigilance des Congolais, la vigilance des partis politiques, de l'association de la société civile qui feront que les élections soient transparentes ou pas. Les hommes qui soient de l'Église ou pas, sont toujours sujets à caution malgré les prestations de serment. Je vous rappelle quand même que si vous voyez le président de l'actuelle commission, le pasteur Ngoyi Moulunda, le problème avec lui, c'est que parfois il n'approfondit pas les choses, il est quand même parfois superficiel. Les fausses réconciliations entre Bemba Saolona, père et son fils, Kungo Kumanje et tout ça, démontrent bien la personnalité du président Ngoyi Moulunda qui parfois n'est pas profond dans ses analyses et dans ses prises de décision.
Merci Israël. Moutala, dernier terme de ce soir, le gouvernement congolais vient d'élever la mesure suspendant l'exploitation minière dans le Deux Kivu et le Maniema. Bonne nouvelle pour les exploitants miniers de l'ex-Kivu. L'arrêté du ministre des Mines portant levé de la suspension de l'exploitation minière artisanale dans le Maniema, le Nord Kivu et le Sud Kivu est tombé mardi soir. Il ne prendra effet qu'au 10 mars prochain. La nouvelle a été annoncée au terme de 4 jours d'intenses discussions d'harmonisation entre le ministère des Mines et les intervenants dans ce secteur. Quelles sont les raisons qui ont motivé cette décision? Le ministre des Mines, Martin Kaboulou, reprend au micro de Daniel Tandizoni.
Nous avons décidé ainsi parce que nous avons vu que sur le terrain, les préalables que nous avons mis sur place étaient déjà accomplis, notamment le déploiement des agents pour faire la traçabilité, également l'étiquetage des colis, la certification des colis était déjà sur place. Et aujourd'hui, nous pensons que ces mesures qui ont été prises vont être bénéfiques lorsque nous ouvrons et que nous serons en mesure de faire une traçabilité efficiente depuis l'extraction du minerai jusqu'à l'exportation.
Israël Moutala, comment vous analysez les raisons avancées par le ministre?
Oui, il faut dire que depuis la suspension de l'exploitation artisanale de ressources naturelles, on a fait du progrès, notamment avec la coopération allemande, tout ça, qui nous a quand même aidé à tracer la chaîne de minerais, c'est-à-dire de l'extraction jusqu'à l'exportation. On a même créé un label qui est le CTC, qui va quand même essayer de certifier qu'un produit respecte les codes miniers, respecte les normes environnementales, respecte le travail des jeunes respecte un certain nombre de critères qui fait que avec ce label, vous certifiez que vous avez payé les taxes, que votre colis, votre marchandise de substances minérales a respecté tous les circuits de l'État. Donc, on a fait quand même beaucoup de progrès, mais la principale question demeure, c'est que il faudrait que les agents qui sont là-bas soient déployés encore davantage, que leur effectif soit renforcé, qu'ils soient motivés. C'est un travail qui doit être approfondi, mais on a fait quand même un bon, on s'est quand même avancé dans le bon chemin sur la voie de la traçabilité de nos ressources.
Merci. Israël Moukala, je rappelle que vous êtes journaliste à Géopolis, un magazine économique des activités extractives. Dieudonné Moulamba, la mesure suspendant l'exploitation artisanale des minerais a été levée, mais comment on peut organiser les secteurs sur l'ensemble du pays pour que les minerais contribuent réellement au développement des communautés et ne financent plus les groupes armés?
Bon, c'est tout à l'heure que Israël venait de soulever, il faut que qu'on puisse renforcer les effectifs des agents qui œuvrent de ce côté-là de l'Est ou dans ce secteur-là pour que les circuits qui doivent suivre les substances minérales puissent être bien suivis. C'est-à-dire qu'au départ, parfois les choses se passaient dans une légèreté la plus notoire. Alors, il fallait vraiment que les choses se passent comme il faut, et dans ce secteur, il y ait un peu de contrôle, qu'on puisse savoir comment on canalise, comment est-ce que l'État tire son pourcentage sur l'exploitation minière dans l'Est du pays. Alors, c'est un peu de cette manière-là qu'il faut qu'on organise les choses pour qu'on ne puisse pas encore converger à une exploitation minière licite qui ne profite en rien à l'État congolais. Il y a aussi une chose qu'il me fallait soulever, c'est que le ministre vient de décider aujourd'hui de la levée de cette mesure, mais je me pose la question si tous les préalables ont été accomplis pour qu'on ne puisse pas encore déplorer une exploitation illicite des minéraux à l'est du pays. Parce que c'est supposé qu'au départ, le chef de l'État avait compris que l'exploitation telle qu'elle se faisait avant, elle était émaillée de beaucoup d'irrégularités, elle était émaillée de beaucoup de désordres. Alors il fallait qu'on essaie de mettre de l'ordre pour savoir comment tailler une traçabilité des substances minérales de la République démocratique du Congo. Alors, si le ministre n'a pas eu, au cours des concertations qu'il a fait avec les acteurs du secteur, à tailler les choses de manière claire, hein, à être rigoureux envers ceux qui opèrent dans ce secteur, ça risque d'être un processus où des consultations qui vont porter à réduire prochainement. Alors moi je pense qu'il faut que le ministre puisse être très rigoureux dans ce qu'il doit avoir fait. Et en plus, j'ai aussi peur que...
Rapidement, je vais donner, on a plus beaucoup de temps.
J'ai peur que ça puisse être des arrangements entre le ministre et les acteurs du secteur minier. Et là, ça risque d'être pire.
Merci de donner. Vous êtes journaliste à la radio-télévision Malindi, en étant depuis Kananga dans la province du Kasai Occidental. Vous êtes aussi correspondant de Digital Congo dans la même province. Benoît Kamiri, on va terminer par vous. Plusieurs observateurs ont affirmé que le bilan de cette mesure portant suspension des activités ou de l'exploitation minière a été négatif.
Oui, parce que c'est la population qui en a souffert, ça c'est un. Et puis c'est que la suspension de l'exploitation artisanale, parce que l'exploitation illicite a continué. Il y a un avion qui est à Goma en ce moment, qui est venu avec des cargaisons, c'était pendant cette suspension. C'était la population qui exploitait de façon artisanale, qui en souffrait, mais les groupes armés, les bonzes, continuent à exploiter comme si de rien n'était. Maintenant, on doit se poser la question de savoir si l'exploitation illicite va s'arrêter. Parce que tout le monde sait que les comptoirs d'achat d'or ne sont pas en République démocratique du Congo, mais sont le long de la frontière est de la République démocratique du Congo où on ne produit aucune substance minière. Il faut se poser des questions.
Merci Benoît Kambere, rédacteur en chef du magazine Les Échos de la région des Grands Lacs. La tribune de la presse est finie pour aujourd'hui. Merci à Nini Stili qui est à la technique. Kéline Koudou vous a présenté cette émission. Retrouvez-la sur notre site internet www.radiookati.net. Rediffusion demain 4h15 heure de Kinshasa. Merci à Alain Hirung et Samuel Katsak qui ont réalisé pour vous cette émission. Merci de programme sur la fréquence de la paix. Thank you.